Il fallait être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons vie. Radio Univers.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Univers 99.9 www.radio-univers.com et tout de suite c'est Écris-toi, aire de jeu littéraire et radiophonique de Bazouges-la-Pérouse, dirigé par la compagnie des Trois Valoches, dans le cadre du prix Facile à lire et organisé par le réseau des médiathèques Quénon Marche de Bretagne. Alors installez confortablement vos oreilles à côté du poste radio et laissez-vous bercer le temps d'une heure par nos lecteurs du soir. Écris-toi, c'est maintenant! On commence tout en douceur par un florilège de jeux d'écriture au programme Changement de regard et construction. On part tous du même point et l'on voit où l'écriture nous conduit. C'est parti!
Une vieille poêle toute noire qui a tellement servi, son manche en bois est tout roussi. Quand je jette un morceau de beurre, j'entends les fristouillis du beurre qui se réchauffe en chantant. C'est toujours une promesse de bonne chose. Vieille poêle toute noire, fidèle compagne du quotidien, tu as été la complice des ratages, des fous rires quand le contenu est aussi noir que la poêle. Mais aussi la complice des réussites. Tu te souviens de ces petites pommes de terre nouvelles sautées avec juste une pointe d'ail, de ces œufs au bacon qui enchantent un petit déjeuner au soleil. Merci, vieille poêle toute noire, pour cette longue collaboration.
Un verre est un objet important, me semble-t-il. Encore faut-il s'en servir correctement. Non pas le casser, mais le remplir. Du moins quand c'est pour se désaltérer ou s'hydrater. Le récipient va-t-il changer pour que le contenant soit mis en valeur? Dans d'autres cas, le verre peut servir de projectile. Et le résultat est souvent de le casser. L'essentiel n'est-il pas l'effet recherché plutôt que l'objet ou son contenu? Pourquoi boire? Se doper pour mieux travailler ou s'enivrer pour oublier le travail? Le verre est donc bien un objet important.
Chaque fois que j'ouvre le tiroir de mon buffet, sa vue me réjouit. Je ne vois que lui, posé là avec les autres. Il faut dire qu'il est unique. Je connais celle qui a façonné le manche dans le bois d'un vieux buis, tout doux dans la main. Je connais celui qui a forgé sa lame et déposé son poinçon, un flocon de neige. Cette lame est à la fois dure et tendre, et si affûtée qu'elle épluche, coupe, tranche les légumes et autres denrées alimentaires, même les doigts imprudents. Si par hasard il s'est égaré dans la vaisselle, je le cherche frénétiquement. Je suis en manque de mon petit couteau de cuisine.
Je m'étire longuement, car je sors à peine de ma léthargie. À vrai dire, je le fais plusieurs fois, tout au long de la journée, et même de la nuit. Ces exercices d'étirement me sont absolument indispensables pour garder ma souplesse. Ils me font du bien, et je pense que mon entourage est envieux de ma nonchalance. Quand certains se plaignent d'arthrose et de douleurs articulaires, ou encore de souffrir d'insomnie, je rigole secrètement. Je sais bien que tous ces humains qui m'entourent ne sont pas comme moi. Figurez-vous qu'ils sont même incapables d'attraper la moindre souris sans avoir recours à des artifices et des pièges. Qui donc est le plus féroce, de l'homme ou du chat? Quand je joue avec ma proie, mon maître la laisse pourrir dans la souricière jusqu'au lendemain matin.
Je suis très confortable, bien rembourrée, immaculée. Ce matin, je me réveille un peu froissée, un peu chiffon. Je reçois une petite tape, pas trop appuyée, ça va. Je passe la matinée à me reposer. Tiens, voilà le chat qui me rend une petite visite amicale. Il ronronne, il a l'air content. Long après-midi de détente, puis on me met dans un sac. On me trimballe pour aller passer la nuit ailleurs. Je me retrouve coincée dans un sac dont on m'extrait beaucoup plus tard. On me tapote encore un peu et je suis l'oreiller sur lequel ma propriétaire va dormir. Ce qu'il y a de bien avec elle, c'est qu'elle ne me laisse jamais seule. Elle m'emmène partout avec elle et quand les autres se moquent d'elle parce qu'elle me trimballe partout, elle répond « Je ne peux pas dormir sans lui ».
J'ai mal au ventre. Bordel, qu'est-ce que j'ai mal au ventre ? En même temps, c'est pas étonnant. Avec ce que j'ai englouti, j'ai de quoi tenir au moins 3 semaines. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai mal au ventre ? Bon, faut dire que j'avais faim aussi. Ça faisait combien de temps que j'avais pas fait un vrai repas, hein ? Parce que ça va, à un moment, de bouffer du rat. Non mais, c'est vrai quoi ! Ça fait des mois que j'ai rien d'autre que du rat à me mettre sous la dent. Ras-le-bol du rat. Alors, quand le festin s'est pointé, j'ai pas réfléchi. Et voilà, du coup, j'ai mal au ventre. Et puis je me traîne là. Faut dire que... j'avais tellement faim que j'en ai fait qu'une bouchée. Une grosse bouchée. Des cornes à la queue que je l'ai bouffée, cette antilope. Les os, les poils, tout. Il en restait pas une miette. Ah, c'était pas une mince affaire. Mais je l'ai bouffée toute crue. Ça m'a fait plaisir sur le coup. Mais là, bordel, qu'est-ce que j'ai mal au ventre ! En même temps, c'est pas étonnant. À force de traîner ma grosse bedaine sur la caillasse, là, à force de ramper, j'ai les écailles toutes râpées. Ah bah bravo! Voilà que je perds ma mue maintenant. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai soif, moi. Après un bon repas, comme ça, qu'est-ce que je bois, moi? Siffla le boa.
Réduire le chauffage et avoir froid, ça va trop loin. Payer plus cher le carburant pour aller travailler et gagner moins, ça va trop loin. Faire de l'exercice physique en risquant de se faire tirer dessus par les chasseurs, ça va trop loin. Se taire quand les injustices se multiplient, ça va trop loin. Laisser les politiques gouverner seuls, sans nous demander notre avis, ça va trop loin.
Cette fois, ça va trop loin. Je ne peux plus supporter tes cachotteries, tes sourires entendus, tes messes basses, ton air repu et content de toi, tes exigences, cette façon que tu as de faire comme si je n'existais pas. Ton arrogance, tes murmures pour tout et pour rien, ton intransigeance, tes airs supérieurs, ton mépris, ton manque d'authenticité, ton vieux costume râpé que tu portes comme si c'était un smoking, ton regard qui ne regarde rien, ta morgue, tes silences. Là, tu vois, tu ne dis rien. Cette fois, ça va trop loin.
Sept qu'ils étaient à me regarder. Noir. Cette fois qui m'ont tour à tour taquiné, insulté, bousculé, giflé, tabassé, éclaté, fracassé. Cette fois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de coups. Pour me faire comprendre un truc que j'avais compris du premier coup. Cette fois, ça va pour cette fois parce que vous êtes sept déjà, hein. Ouais, et c'est ça, sept. Alors ça va pour cette fois. Cette fois, ça va trop pas le faire en fait, vu que vous êtes 7. Parce que 1, 2, bon, ça va, enfin ça va. Alors 3, 4, bon, bah ça va pas trop. Alors 5, 6, bah ça va pas du tout même. Alors cette fois, ça va trop loin, bah oui. Désolé les gars, moi je suis parti, hein. Et très loin, bon. Mon corps, lui, il est toujours là, sous vos coups, mais moi, ça va bien. Cette fois, ça va bien. Cette fois, ça va trop bien, mais loin.
Ça va trop loin, ce chemin. Les cailloux roulent sous mes pieds fatigués. Les kilomètres s'accumulent. Le soleil, galant, cède sa place et la nuit déplie son cafetan, jaune. Ça va trop fort, ces plantes. Parasites, elles recouvrent les talus, débordent, puissantes, sur les routes et résistent à toute attaque pesticide. Les feuilles s'étalent magnifiques, la colère monte. Je ris, vert. Ça va trop vite, ces chevaux. Ils galopent, accélèrent, sprintent. J'ai perdu. Les cavaliers tombent. Les animaux s'enfuient, les parieurs hurlent, blanc. Ça va trop mal, cette hypocrisie. Les gens se méprisent et aucune de leurs paroles ne m'intéresse. Les sourires s'esquissent, la méchanceté rôde, rouge. Ça va trop fort, ce vent. Il crie et bouscule les nuages qui se heurtent aux branches. Il décrasse mon cœur, purifie mon âme et assainit ma colère, gris. Ça va trop loin, cette histoire. Les mots filent et j'en rattrape aucun. Les lettres s'effacent, le sens s'effrite, bleu.
Monsieur, je viens de recevoir ma lettre de licenciement immédiat. C'est quoi ? Je viens de recevoir ma lettre de licenciement immédiat. Je prends mes affaires et je me tire. Vous nous prenez pour la lie de la société. C'est sans doute vrai. Qu'est-ce qu'une femme de ménage qui a 3 enfants à nourrir peut espérer? Même pas un regard qui me rendrait ma dignité, qui serait une reconnaissance de mes 10 ans, passés à nettoyer, récurer, me faire toute petite, être toujours polie. Nous sommes les travailleuses invisibles, mal payées, peu respectées et pourtant essentielles, vous l'oubliez trop souvent. Du haut de votre morgue à notre égard, vous ne savez rien de nous. De nos fins de mois difficiles, de nos trajets dans le métro à 5 heures du matin, à peine réveillés, vous ne savez rien du petit chef, un homme, cela va de soi, qui braille pour rien, parce que vous savez, le travail, nous savons le faire et nous le faisons bien. Mais que vaut une femme de ménage, même pas un regard?
Cher monsieur, non, pardon. Très cher, non, pardon encore. Trop cher monsieur. Trop cher, car il s'agit possiblement d'un point sur lequel nous pourrions très éventuellement tomber d'accord au regard de vos incessantes requêtes, aussi insaisissables qu'insurmontables, qui, malgré mes incommensurables efforts, semblent ne jamais vous avoir satisfait. Et puisqu'à la lecture de votre courrier, je me permets d'imaginer que vous avez considéré que je devais alors vous coûter très cher, voire trop cher, sachez donc dorénavant qu'il en va de même pour moi avant tout endroit. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi, donc reprenons. Trop cher monsieur, disais-je donc. Non, toutes mes excuses une fois de plus, puisque mon cieux pourrait laisser entendre qu'il y eut un jour un seigneur et qu'il fut le mien et que, quand bien même un jour vous eût été mon supérieur hiérarchique, jamais vous ne fûtes mon seigneur. Alors, peut-être puis-je, le plus simplement et le plus synthétiquement du monde, vous considérer et donc vous intituler comme suit, à savoir, feu supérieur hiérarchique. Reprenons donc. Trop cher feu supérieur hiérarchique, disais-je. Non, toujours pas. L'intitulé semble exact et pourtant la formule ne me sied guère. Peut-être est-ce l'expression « supérieur hiérarchique » qui sème chez moi une certaine confusion référentielle. Supérieur de quoi et de quelle hiérarchie? Pour ne rien vous cacher, je dois bien vous confesser que le mot « hiérarchie » m'évoque une certaine verticalité qui me donne immédiatement envie d'aller me coucher. Mais vous me concéderez aisément que l'on n'a pas idée de fourrer autant de haches dans un seul mot. En échange, je vous concéderai aisément le fait que vous sachiez davantage péter au-dessus de votre postérieur et par le même du mien que moi. Mais il me semble cependant que pour tout le reste, vous ne m'êtes supérieur en rien. Peut-être alors devrais-je le plus simplement et le plus synthétiquement du monde vous considérer et vous intituler comme suit « Trop cher feu supérieur hiérarchique de mon cul ». Reprenons donc, trop cher feu supérieur hiérarchique de mon cul, permettez-moi de vous exprimer le plus simplement et le plus synthétiquement du monde le sentiment de mon expression la moins distinguée comme suit, cordialement ou pas, je vous dis merde.
Cher employeur, vous devinerez ma surprise et ne soupçonnerez pas mon saut de joie en lisant votre lettre de licenciement. J'étais sur le point de démissionner la semaine passée, me voici fière d'avoir tenu bon. Notamment pour le plus grand plaisir des clients, qui, la plupart du temps, se montraient satisfaits de ce qu'on leur servait. Je stipule même avoir reçu de nombreux compliments suite à mes expérimentations, chaque fois plus originales. Je regrette, nonobstant, n'avoir su trouver un terrain d'entente avec vous, laissant vos papilles recroquevillées. Après 6 mois de travail sous votre enseigne, je souhaitais vous avertir que vous n'avez constaté qu'une partie des recettes dérivées que j'ai pu mettre en œuvre. Lors de notre dernière altercation, vous déploriez observer que certaines clientes cédaient leur place à d'autres plus friandes de saveurs explosives. Afin de susciter la curiosité de vos papilles, je tenais à vous partager quelques aventures culinaires qui ont considérablement fait voyager les clientes. Le muffin chocolat sardine, le millefeuille au thon ou encore le Paris-Brest fourré au fromage. J'admets que le Queen Amam aux pommes était peut-être de trop. Néanmoins, je vous remercie de m'avoir permis de tester ces pâtisseries pendant ces mois-ci, créant ainsi les conditions idéales d'une renaissance de votre patrimoine gustatif personnel, pâtissièrement.
Il 250 giallo, di marca giapponese, due pacchi di cambiali, però avevo anche gli stivali di cuoio nero. E i due retrovisori e l'alberello di taglio natalizio. Io mi sentivo forte, io ero il più invidiato e stavo bene. E chi si lamentava finché avevo di che pagarmi la linfa al mio motore. Ho conosciuto lei ad una festa in piazza. Lei era magra come un giunco, coi fianchi da bambina. Lei mi piaceva tanto. Abbiamo mangiato noccioline americane finché io non le ho detto: facciamo un giro in moto. Evviva il cross! E viva il motocross! Avevo anche la donna! E viva il motocross! La nuova superstrada appena fuori dal paese. Lei mi urla, qui va bene, fermiamoci a fumare. Ed il momento era perfetto, la stavo per baciare. Quando all'improvviso una manaccia sulla spalla mi fa gelare il cuore. Due tipi da galera ed un coltello puntato nella gola. Proprio lei mi dice: calma amico, vogliamo il tuo motore. Evviva il cross! Evviva il motocross! Rischiamo la mia pelle. Viva il motocross! E se ne sono andati in tre sul mio motore, lasciandomi soltanto la rabbia da ingoiare, la rabbia da ingoiare, la rabbia da ingoiare, la rabbia da ingoiare.
sfida al motocross. Per una donna ladra, evviva il motocross, evviva il cross, evviva il motocross. Per una donna ladra, evviva il motocross, evviva il cross.
Et voilà, c'était Ivan Graziani, de Motocross de Ivan Graziani et Zigzag de René Aubry. Vous êtes toujours sur Radio Univers 99.9. Écris-toi, ça continue. On passe la seconde tranquillement. Chauffons les plumes et faisons couler de l'encre. C'est reparti pour un tour.
L'inexorable et écrasant soleil de juillet déploie son ardeur, rendant irrespirable l'atmosphère de ce village provençal où je passe mes vacances. Dans la rue, devant moi, se tient une femme à l'ombre d'une encoignure de porte. Elle semble un peu perdue, insolite à cet endroit. Elle porte une robe de nu, orange, sa peau bronzée rehausse la beauté de l'instant et l'harmonie entre l'orange éclatant de sa robe et le bleu majoral de la porte. Elle rêve, ou s'est réfugiée là pour fuir la morsure du soleil. J'arrive à sa hauteur, elle m'interpelle. Pourriez-vous me donner un conseil ? Oui, sans doute, je ne sais pas. N'y voyez rien de personnel, je veux juste entendre une voix. Je suis seule ici, et mon rêve est d'échanger quelques mots avec quelqu'un. Elle commence à parler. Elle a une jolie voix un peu basse. Je l'écoute. Tant de solitude pour une si jolie femme. La lumière bleuâtre du soir descend sur le village. Nous sommes toujours là. Une moue dubitative se dessine sur son visage. Elle dit « merci » et s'éloigne.
Bien qu'il soit inexorable, je te le conseille. Bien que tu lui fasses la moue, je te le souhaite. Je te le souhaite fort, je te le souhaite dense, intense, je te le souhaite submergent, écrasant peut-être. Que tu l'observes juste, avec circonspection, comme une orange trop amère pour oser la goûter, ou bien que tu t'acharnes pressé à lui faire la peau et en mordre la chair jusqu'à en grimacer. Je souhaite que tu le cueilles, qu'il te cueille en retour. Comme une aube d'hiver, je souhaite qu'il te morde autant qu'il t'éblouit, de son spectre bleuâtre qui fait que tout frémit, dehors comme en dedans, à t'en rosir les joues. Je ne le connais pas, je ne le rencontrerai jamais, ce petit songe personnel qui n'appartient qu'à toi, mais je te souhaite de rêver, je te le conseille, bien qu'il soit inexorable.
Personnel rêvait de vacances. Le courant tournait au ralenti. Le chef, faute de clients, n'avait plus d'imagination. Que vais-je préparer avec toutes ces oranges ? Et personne pour lui donner des conseils. La clientèle se faisait de plus en plus rare. L'inexorable attente des plus inutiles face à l'insupportable moue permanente du propriétaire de l'hôtel de charme qu'ils avaient tous perdu. Arbres abattus, tuiles absentes et façades décrépies ne retenaient pas les quelques clients qui avaient suivi par une soirée bleuâtre ou sous un soleil écrasant le chemin qui devait les amener jusqu'aux délices de la table. Beaucoup repartaient sans même entrer et ne voyaient jamais la déception des serveurs qui continuaient d'espérer voir se régaler des convives. Quelques courageux cependant franchissaient le seuil. ignorait la décoration délabrée et surannée, s'asseyait à une table bancale et commençait à lire la carte. Alors les convives souriaient, salivaient et s'impatientaient. Le palais enchanté et le cœur réjoui, jamais ils ne regrettaient leur escapade hardie.
Faire glisser la bille qui roule, roule inexorablement jusqu'à ce que l'encre bleuâtre, absorbée par le papier, s'épuise. D'une moue dégoûtée, je jette mon stylo, l'écrasant de rage sur le parquet. L'imagination, la rivière limpide d'associations de mots, s'est éteinte avec lui. J'ai rêvé. J'ai rêvé ne jamais avoir assez de pages pour délier des lettres. Écrire. Écrire. Une consigne. Une liste de courses. Une lettre d'amour. Et si j'aurais écrit « La terre est bleue comme une orange ». Mais ma foi, je n'écris rien de personnel. J'ai bien reçu quelques conseils, mais les lettres ne sont pas pour moi. Sans mon stylo, l'imagination n'est pas. Rien n'existe.
Cette nuit de dimanche, où ma caisse m'a claqué dans les pattes sur l'autoroute pour Bordeaux, tu étais là. Cette nuit de dimanche, où cette fille m'a plaqué sans un verre de Bordeaux, tu étais là. Cette nuit où mon trop cher feu supérieur hiérarchique de mon cul m'a demandé de traverser la moitié de la France après une journée de 16 heures, tu étais là. Avec le café. Cette fin d'après-midi où le fond du cercueil a pété, où tout le jus coulait sur mes godasses et où j'ai prié ton arrivée sans pouvoir me pincer le nez, tu as fini par arriver. Tous ces lundis matins où tu m'as demandé 10 balles que j'avais même pas et que tu le savais, tu n'étais pas là. Tous ces lundis matins où un clochard me demande 2 balles et que je les ai pas, tu es là pour lui et tu es là pour moi. Toutes ces nuits où je trouve porte close sous la pluie, toutes ces nuits où j'ourdis mes plus belles revanches, toutes ces nuits où j'étanche les meilleurs whisky, toutes ces nuits où je m'épanche sur des mélodies, tu es là. Le jour où le médecin me prescrira une radio des poumons, tu seras là. Le jour où je devrais t'arrêter, tu seras là. Le jour où je vais en crever, tu seras là. Tu me tues à bien m'accompagner, mon amour de saleté de tabac.
Du mal, du bien. Que penser de lui, que dire d'elle? Je n'en pense rien, je n'en dis rien, ni de lui, ni d'elle. L'appeler Yel et lui rendre ainsi ce que depuis de longues années il a recherché en elle. Attire d'elle? À coup de gueule, à coup de poing, il a conquis son aile. Défiant les regards désobligeants, enfonçant les cruelles portes des préjugés incessants, des clichés huileux, des sourires mal aimants, des connaissances mal à l'aise au bord du malaise parfois, ne comprenant rien au désir de lui de devenir cette nouvelle aile et ne respectant pas le plaisir de lui d'avoir enfin le corps d'elle. Maugréant encore contre cette volonté de lui d'obtenir une nouvelle identité. Je pense essentiellement du bien, du mal que s'est donné Yel.
Il est de ces journées maussades où l'on se languit de le rencontrer. Même une microseconde nous réjouirait. Sa visite, toujours rayonnante, parfois furtive, se fait désirer. Des nuages de couleurs, aux nuances de degrés, il fait des jaloux. Tout le monde rêverait d'être ce cerisier solide sur ses appuis, avec une cime si haute qu'à toutes les saisons, la fin de journée est pétillante et si variée. Ce n'est pas moi, brave pommier, qui ai la joie d'admirer le spectacle de lumière qu'il est en capacité d'offrir aux géants. Pourtant, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Je me souviens encore de ces débuts de printemps où je pouvais de nouveau me déployer, feuille par feuille, laissant la photosynthèse faire son affaire. Ce que j'adorais m'extirper de mon sommeil hivernal et grâce à lui, laisser exploser mes bourgeons. Selon mon voisinage, mon allure varie, tantôt bien à l'ombre, tantôt compressée par des voisins en pleine expansion d'eux-mêmes. En fin d'été, à force de briller et de me réchauffer, je me suis senti de plus en plus lourd, les pommes mûrissaient. J'étais entier, complet, lourd, mais si savoureux. Et puis, à force d'user de son pouvoir, le soleil m'a tué. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Je me trouve reléguée sur le tas de compost, recevant de temps à autre des coquilles d'œufs, pelures de légumes et autres joyeusetés odorantes, voire laides. Un univers olfactif bien différent des pommes acidulées qui m'entouraient.
Je suis en colère, je me sens bouillir à l'intérieur. J'ai envie de hurler, de taper du pied, tout me dégoûte. Je suis verte de rage, mes ongles s'enfoncent dans les paumes de mes mains, je me fais mal. Mes jointures sont toutes blanches, je ne peux pas encaisser, je suis tellement en colère. Au fait, pourquoi je suis en colère ? C'est ce grand escogriffe qui m'a humiliée. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit au juste ? Je suis là, déboussolée. J'ai oublié l'objet de ma rage. Je ne veux pas être en colère pour des causes justes, pas dans la vie quotidienne. Je regarde autour de moi. Tout est à sa place. Je me sens un peu idiote. Un peu triste de m'être laissé aller à une telle rage. Le grand escogriffe sourit.
Le discours dominant de ceux qui nous gouvernent est de nous pousser à créer des entreprises et des start-up. La motivation est financière. Faire de nous des entrepreneurs millionnaires en satisfaisant des besoins illusoires. Une telle conception purement matérialiste et mercantile me met en colère. Comment peut-on réduire les êtres humains à une seule dimension ? Qui plus est la moins imaginative, celle de l'argent ? Je suis en colère contre tous ces électeurs qui choisissent leur bulletin de vote en fonction de critères économiques. Notre société ne mérite-t-elle pas de s'intéresser à la sphère culturelle ou philosophique, voire spirituelle ?
Ils sont là, partout. Quand j'erre en ville comme une âme en peine, dans les boulevards les plus clinquants comme les ruelles les plus mal éclairées, ils sont là, partout. Sous les lampadaires, au pied des tours, à l'entrée des galeries marchandes, au sortir des bars et des restaurants, dans les parcs publics, ils sont là, partout. J'ai mal aux jambes. Il faudrait que je me pose 5 minutes. Mais je peux pas. Je veux pas. Ils me dégoûtent. Ils sont là. Partout. Avec leurs bosses et avec leurs trous. Avec leurs pics et avec leurs clous. Leur dos tordu et leur cul penché. Leurs pieds vissés. Ils sont là. Partout. Mobilier urbain de torture. Putain de banc du futur. Ils sont là. Partout. Il y a des ingénieux qui passent des nuits blanches à pondre des trucs pareils. juste pour que ces gueux qui finissent leurs manches n'y trouvent pas le sommeil. On peut tellement pas y dormir que j'ai même plus envie de m'y asseoir. Vous êtes là, partout. Mais j'ai envie de rire. Parce que plus vous mettez de clous, plus il y aura de fakirs. Et moi, je les saluerai bien bas, tous, là, partout. Mais en attendant, j'ai mal aux jambes et j'ai mal au cul. Mais je préfère encore ça que m'asseoir dessus.
Toujours pareil. Une fixation, une parole en trop, une frustration, et c'est parti. Le regard se fige, noir, l'orage tonne dans le cerveau, un déclic, un éclat rouge, comme la lumière d'un phare au loin. Et c'est déjà trop tard. Le déclic. Appuyer, ne pas appuyer, le millième de seconde où tout va basculer. Et c'est jouissif. Les muscles du visage se raidissent, cassant comme les éclairs qui cisaillent le ciel. Le corps entier suit, droit, rigide, muscles bandés, grondements et éclairs se succèdent. Les poings se referment, se serrent, blanchissent comme l'écume de mer qui s'amoncelle, et les vagues grossissent, encore et encore. Le vent se lève. La tempête s'engouffre dans le cerveau comme un tourbillon et finit par emporter tout l'être. Le tsunami dévaste tout sur son passage. Tout vole et s'envole, s'écrase et se brise, crisse et se crispe. Plus rien n'est cohérent, plus rien n'est rationnel. Le vent hurle sa détresse, injure, ineptie, les recoins les plus noirs des pensées insensées. Un choc thermique et l'ouragan s'y broie. L'être s'épuise. Le corps se loque et se disloque. L'esprit est en guenille. Difficile de rattraper la barre. Les grondements s'éloignent. La nuit s'estompe. Encore un léger brouillard. Et c'est le calme. Pétole. Une mer d'huile. Et c'est passé. Silence. Le dos se tourne, fuite, et c'est la chute. Abysse. Une pelle, un balai, une poubelle. Ramasser les morceaux. Vide, vide, le corps repu. Naufrage, plus de force. La réalité s'approche. Fatal, silence. Silence des profondeurs. Le tempo du sonar qui tambourine dans les tempes. Dormir, dormir, dormir et respirer. Respirez encore. Thank you.
écoutez toujours Radio Univers 99.9. Écris-toi, dernier service, fiction, témoignage et carte blanche aux auteurs, c'est tout de suite.
Une nuit magique, un ciel étoilé, des lumières, de grands hôtels comme des immeubles, la ronde des avions crée une ambiance un peu surréaliste en ce début novembre. Une femme, vêtue de noir, marche rapidement à la lumière des réverbères. Elle porte un chapeau à large bord qui dissimule son visage. Ses mains sont dans ses poches. Il fait un peu froid ce soir. Elle arrive devant le Sheraton, monte les trois marches du perron, s'engouffre dans la porte tournante. Elle a un moment d'hésitation, imperceptible. Cette femme, longue et mince, se dirige vers un fauteuil, commande un gin tonic et attend. Elle inspire un certain respect, seule dans ce hall d'hôtel. Le temps passe, elle est toujours là, imposante par son calme et son immobilité. Un homme grand, bien habillé, avec une chaîne massive en or autour du cou, s'avance vers elle. Il sourit. Elle le regarde très fixement, sans émotion, et sort un minuscule revolver de sa poche.
C'est la nuit silencieuse, si particulière dans les hôtels. Des pas feutrés, des voix assourdies derrière les portes, et deux femmes qui se retrouvent nez à nez au bout du long couloir moquetté de verre anglais. Doivent-elles se saluer ou s'ignorer ? Chacune se pose les mêmes questions, le regard hésitant, les bras resserrés le long du corps et une carte magnétique dans la main droite. L'une, grande et svelte, porte une combinaison noire dont la soie fluide caresse délicatement ses courbes discrètes. L'autre, très musclée et plus petite, a une démarche énergique. Deux femmes différentes dans un couloir vieillot qui se toisent, puis se regardent et se reconnaissent. Elles ont rendez-vous.
Le jour où maman est morte, je jouais avec mes cousins dehors. Il faisait très beau et nous avions chaud. Ma tante m'a appelée. Je l'ai rejointe à l'intérieur. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Ta maman est morte ». Ces quelques mots n'ont rien évoqué pour moi. Des mots. J'avais 5 ans, mais j'avais la sensation qu'il faisait froid et sombre dans la pièce. Ma tante m'a proposé de dire une prière. Nous avons prié ensemble, puis elle m'a dit « Tu peux retourner jouer avec les enfants. » Je suis sortie dans le soleil, un peu secouée, sans trop savoir pourquoi, et j'ai retrouvé mes cousins pour continuer le jeu en cours. Un lourd silence entourait la mort de ma mère. Personne ne disait rien. Quand j'ai réalisé l'absence, je me suis sentie infiniment triste et seule. J'ai décidé que cette tristesse serait là, présente en moi, pour toujours, mais qu'elle ne m'empêcherait pas de vivre et d'être joyeuse. Alors, quand je sentais la tristesse m'envahir, je partais me promener et m'attachais à chercher dans la nature des choses belles qui pourraient me réconforter. Admirer la beauté des fleurs, m'enivrer de l'odeur des seringas, fixer une nuance de vert en espérant m'en souvenir pour toujours. Et quand je rentrais de ces promenades solitaires, je pouvais reprendre le cours de ma vie et supporter le silence.
Je reviens de l'école et monte l'escalier. Je pousse la porte de la maison de ma grand-mère. Il fait froid dehors, mais dans sa petite cuisine, la chaleur douce me réconforte. Elle est là, comme chaque fin d'après-midi. Elle attend avec plaisir et impatience le passage de ma sœur et moi. Nous lui racontons notre journée, l'école, les camarades, le chien des voisins qui, une fois encore, s'est jeté contre le portail quand il nous a entendus. Elle raconte, tout en préparant un chocolat chaud et quelques biscuits, ce qu'elle a cuisiné à midi, quelle copine est passée la voir, quelles fleurs elle plantera au printemps. Et nous voilà attablés pour le goûter qui se répète chaque jour d'école. Puis vient le moment tant attendu. Elle nous invite à ouvrir le tiroir à confiserie. Il est placé à droite du meuble bleu pâle en formica. Il contient une variété de bonbons durs, tendres, colorés et d'autres bouchées au chocolat. Quand ma grand-mère part en excursion à la journée ou en vacances une semaine, elle rapporte des douceurs. C'est ainsi que je me suis régalée de caramels de Jersey ou de Normandie, de bêtises de Cambrai, de berlingots colorés, de sucettes de nougat et de plein d'autres friandises emballées ou non, dont j'ai oublié la provenance, mais que j'ai toujours tellement appréciées. Pourtant, tout ce sucre, maintenant, me laisse indifférente, voire me dégoûte. Je me souviens en particulier des Milky Way et des rochers suchards que je trouvais délicieux et qui sont devenus insipides. Mes goûts ont changé, la recette aussi sans doute.
Je me suis préparé pour la musique et joué à la commémoration du 11 novembre. Fallait-il porter l'uniforme comme les autres musiciens ? Comment s'habiller pour ne pas avoir froid ? Je ne me rappelle plus très bien. Les partitions et les instruments de musique devaient résister aux intempéries. En effet, le papier prenait l'eau et les écarts de température nuisaient à la justesse du son. Le plus dur était de garder une contenance, une expression digne, même si les fausses notes déclenchaient en temps normal des fous rires. La gravité de la commémoration et des morts pour la France empêchait toute hilarité. Et je me rappelle m'être mordu la langue jusqu'au sang pour réprimer toute émotion déplacée. Pourtant, j'avais choisi la musique pour sa douceur et son côté pacificateur.
Sans issue. Regardez les gens depuis les wagons de la vie. Des visages comme autant de paysages, comme autant d'errances gravés à jamais dans la sagacité des regards et l'inévitable parchemin de la vitalité ralentie. Les cheveux blanchissent, clairsemant la jeunesse, les années serpentent autour des yeux, les voix chevrotent, ralentissant le verbe, les muscles s'amollissent, les corps rapetissent. La parole se libère, l'âge rendant dissibles les émotions amères et douces, longtemps tues. Le film impermanent de l'existence parfois se perd dans les méandres mémoriels et permet l'essentiel oubli qu'on ne réchappera jamais de l'aventure de l'existence. Pause. Il pleut et je regarde les gouttes former un rideau de perles qui sépare la terrasse du jardin. Il fait gris et je n'entends plus les oiseaux qui attendent le retour du soleil glisser sous les feuilles. Je médite, je réfléchis, je rêve. Je n'attends pas que la pluie cesse, que le soleil revienne. Je réfléchis, je rêve, je médite. Je profite de l'instant, j'écoute la petite voix au fond de mon être. Je rêve, je médite, je réfléchis. Le ciel gris blanchit, le soleil s'insinue discret, striant de bleu l'horizon. Les oiseaux dissipent le silence et je regrette déjà ces moments infinitésimaux.
Et voilà, c'est ainsi que se termine Écris-toi, aire de jeu littéraire et radiophonique de Bazouges-la-Pérouse. Merci à Aline, Anne, Delphine, Emma, Martine, Marie-Paul, Pierre pour cette joyeuse dégustation sonore. Nous espérons que ça vous a plu et si vous désirez réécouter cette émission, vous pourrez la retrouver très bientôt en podcast sur le site de Radio Univers, www.radio-univers.com. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et un bon début d'été. À vous les studios. Ciao.
Les oraux.
Émission.
La radio.
La radio.
Chaque semaine, la tienne, la mienne.
Écriture.
L'imprévu. Courir, parcourir.
Aujourd'hui.
Écouter.
Vivre. Vivre. D'autres chemins. D'autres voies.
Voix.
Resplendir.
Vivre.